Chapitre 4. Les gens de Bitham. Avant une semaine, la nouvelle que le major Rossiter était sur le point d'épouser la deuxième des demoiselles Wanless s'était répandue à travers Bitham, et la ville apprécia fort cette nouvelle. Bitham aimait à ce qu'un de ses enfants fût introduit dans cette grande famille, et surtout qu'il ait l'honneur de recevoir la main d'une jeune fille dont tous reconnaissaient la beauté. Bitham, un mois plus tôt, avait déclaré qu'Alice Dugdale, originaire elle-même de la ville, elle y était née, y avait grandi et y avait toujours vécu, aurait l'honneur d'épouser le jeune héros. Mais on pouvait douter que Bitham ait été entièrement satisfaite de cette combinaison. On est toujours prompt à envier la chance de ceux avec qui on a toujours été familier. Pourquoi Alice Dugdale plutôt que les demoiselles Tweed ou Miss Simpkins, la fille de l'avocat, qui jouirait certainement d'une jolie petite fortune à elle, ce qui, malheureusement, ne serait pas le cas d'Alice Dugdale. On sentait qu'Alice n'était pas assez bien pour le héros, Alice qu'on avait vue avec tous les enfants Dugdale, promenant leur landau presque tous les jours depuis la naissance de l'aîné. Nous préférons toujours l'autorité d'un étranger à l'autorité d'un individu choisi parmi nous. Et puisque le héros ne pouvait pas être partagé entre les deux demoiselles Tweed, Miss Simpkins, Alice et trois ou quatre autres encore, il était préférable qu'il les quitte toutes et aille chercher une compagne dans des contrées plus élevées. Tous sentaient la grandeur des Wanless et pensaient, comme Mrs. Rossiter, que l'étoile montante du village pourrait, par ce noble mariage, obtenir tout le soutien que demandait son ascension. Sans doute, il existait un parti qui pensait qu'Alice serait l'heureuse élue. Mrs. Dugdale, la belle-mère, s'en était vantée, et le vieux Mr. Rossiter avait murmuré sa secrète conviction à l'oreille de chacun de ses heureux paroissiens. Le docteur Dugdale lui-même avait autorisé ses patients à le questionner sur le sujet. Cela devenait si fréquent qu'Alice elle-même en était secrètement indignée, et elle en aurait été ouvertement indignée si elle avait pu seulement se résoudre à aborder la question. Si elle l'avait fait, tout Bitham aurait été scandalisé par l'inconstance de son héros. Mais, en tout cas chez les dames, on était bien loin de ces pensées. Évidemment, un homme comme le major devait obtenir ce qu'il y avait de mieux pour lui-même. Se marier est une affaire sérieuse, et ce n'est pas parce qu'un jeune héros, emporté par la ferveur d'une vieille amitié, s'était laissé aller à embrasser une jeune fille dès son retour à la maison qu'il devait se sentir obligé de l'épouser. Tout Bitham connaissait l'histoire du baiser, et les autorités compétentes avaient décrété que cela ne voulait rien dire. C'était une dernière manifestation des joyeuses embrassades de l'enfance, et si Alice avait la folie de vouloir lui donner plus de signification, elle devrait payer le prix de cette folie. « C'était en présence du père de la jeune fille, » dit Mrs. Rossiter en défendant son fils face à Mrs. Tweed, et Mrs. Tweed avait émis l'opinion que ce baiser devait en effet compter pour rien. L'innocence du major était reconnue, et cette innocence se fraya même un chemin jusqu'à la nurserie du docteur, si bien qu'Alice dut admettre que le jeune homme pouvait épouser la fille de Brook Park sans faillir à l'honneur. En formulant cette pensée, elle n'ajoutait pas à son chagrin. Si le jeune homme voulait épouser cette fille, grand bien lui fasse. Elle lui trouvait des excuses au fond de son cœur. « Ce que recherche généralement un homme, se disait-elle, c'est une belle femme, et on ne pouvait douter de la beauté de Miss Georgiana Wanless. Seulement, il y avait certains mots qu'il n'aurait jamais dû prononcer. » Environ une semaine après la visite du major, un événement retint l'attention des gens de Beetham. La voiture de Brook Park s'arrêta devant la porte du presbytère. Ce n'était pas un fait complètement nouveau. S'il n'y avait eu aucun précédent, on aurait eu du mal à trouver une explication dans les circonstances actuelles. Lady Wenless venait peut-être une fois tous les deux ans au presbytère, et sa visite était toujours suivie d'une invitation à Brook Park, durant laquelle on faisait toujours référence à Wadham et à Christchurch. Mais cette visite n'était pas de celle-là, car seulement 9 mois s'étaient écoulés depuis la dernière, une irrégularité dont tout Beetham se rendit parfaitement compte. Miss Wenless et la troisième fille accompagnaient leur mère. Georgiana était restée à la maison. Beetham ne sut jamais ce que se dirent les deux vieilles dames, mais on put faire des conjectures. Cela dut ressembler à peu près à ceci. « Nous étions tellement heureux d'avoir le major chez nous, » avait dit Milady. « C'est si aimable de votre part. Sir Walter l'adore. Sir Walter est si bon. Et nous sommes très heureux de l'avoir parmi nos jeunes gens. » Et ce fut tout. Mais c'était suffisant pour faire comprendre à Mrs. Rossiter que John pourrait avoir Georgiana dès qu'il la demanderait et que Lady Wenless attendait de lui qu'il fasse sa demande. Puis elles se séparèrent avec des signes d'affection plus forts que jamais, et il y eut une poignée de main et un signe de tête qui voulait dire beaucoup. Alice ne fit aucun commentaire, et elle fit son travail en s'efforçant de rester joyeuse. Encore et encore, elle se disait « que m'importe ?» Même si elle était malheureuse, même si elle ressentait au cœur une douleur vive, réelle, perpétuelle, en quoi cela était-il important, tant qu'elle pouvait continuer à vaquer à ses occupations ? Certaines personnes en ce bas monde doivent être malheureuses, peut-être la plupart des gens. Et ce chagrin, même si elle ne pouvait s'en défaire, elle pourrait finir par le supporter. Elle était même contrariée qu'il y ait le moindre chagrin. La Providence lui avait assuré des conditions de vie qui n'étaient pas dénuées de charme. Elle aimait sincèrement ceux qui l'entouraient, son père, ses petits frères et sœurs, et même sa belle-mère fatiguée et désœuvrée. Elle était la reine de la maison, la reine de ses petites occupations, et elle aimait être une reine, et elle aimait être occupée. Personne ne la réprimandait, personne ne la grondait, personne ne la contredisait. Elle avait la satisfaction de se savoir utile. Pourquoi cela ne lui aurait-il pas suffi ? Elle se méprisait parce qu'il y avait un vide dans son cœur, parce qu'il lui semblait se ratatiner sur elle-même dès que le nom de Georgiana Wenless parvenait à ses oreilles. Et pourtant, elle prononçait ce nom elle-même et pouvait parler des Wenless avec ce qui ressemblait à de l'admiration. Et elle répétait qu'il était bon pour les hommes de se battre pour faire leur chemin dans le monde, et que le monde lui-même s'améliorait à travers ses efforts individuels. Mais elle ne prononçait pas le nom de John Rossiter, pas plus qu'elle ne supportait qu'on le prononçât devant elle en faisant la moindre référence à elle-même. Mrs. Dugdale, même si elle était usée et désœuvrée, comme un vieux meuble tout penché et sans la moindre utilité, et fait d'un mauvais bois, comme il a déjà été dit, Mrs. Dugdale voyait cela mieux que quiconque, et elle en était indignée. Perdre Alice, ne plus avoir personne pour repriser et recoudre, ce serait la fin de son propre confort. Mais même si c'était une bonne à rien, elle avait bon cœur, et elle savait qu'Alice était trahie. Seule Alice avait des droits sur le héros, et non cette petite snobinarde de Brook Park. Ce fut ainsi qu'elle aborda la question avec le docteur, et après un moment, elle ne put s'empêcher d'en parler avec Alice elle-même. « Si ce dont ils parlent tous doit arriver, alors je penserai plus de mal de John Rossiter que je n'en ai jamais pensé de tout autre homme au monde, » dit-elle un jour, en présence de son époux et de sa belle-fille. « John Rossiter ne s'en portera pas beaucoup plus mal, » dit Alice, sans se détourner un instant de son travail. Sa voix avait un ton taquin, comme si elle se moquait de la bêtise de sa belle-mère. « Vraiment, on dirait que les hommes peuvent faire tout ce qui leur passe par la tête de nos jours, » continua Mrs. Dugdale. « Je suppose qu'ils sont maintenant tels qu'ils ont toujours été, » dit le docteur. « Un homme peut se montrer déloyal s'il le souhaite, aujourd'hui comme hier. » « Je trouve cela indigne d'un homme, » dit Mrs. Dugdale. « Si j'étais un homme, je rosserais le major. »« Et pourquoi le rosseriez-vous ? » lui répondit Alice qui se leva. Et, ce faisant, elle jeta sur la table la petite robe sur laquelle elle travaillait. « Si vous aviez le pouvoir de le rosser, pour quelle raison le feriez-vous ? » « Parce qu'il ne se conduit pas bien envers toi. »« Qu'en savez-vous ? Vous ai-je jamais dit cela ? Avez-vous entendu un seul mot qu'il m'aurait dit qui pourrait confirmer qu'il se conduit mal envers moi ? C'est vous qui vous conduisez mal envers moi quand vous me parlez comme cela. » « Alice, ne sois donc pas si violente, » dit le docteur. « Mon père, je vais vous dire une chose, et je ne la répéterai pas, et ensuite, par pitié, qu'il n'en soit plus question. Je n'ai aucun droit de me plaindre en quoi que ce soit du major Rossiter. Il ne m'a fait aucun mal, ce qui même ne devrait pas associer son nom au mien. « C'est un brigand, » dit Mrs. Dugdale. « Ce n'est pas un brigand, c'est un gentleman pour ce que j'en sais, depuis le sommet de son crâne jusqu'à la plante de ses pieds. Vous rendez-vous compte à quel point vous faites peu de cas de moi lorsque vous parlez de lui ainsi ? Ôtez tout ceci de votre esprit, mon père, et que tout redevienne comme avant. » Pensez-vous que je sois transi d'amour pour qui que ce soit ? J'ai dit que le major Rossiter était un honnête homme et un gentleman, mais je ne donnerai pas le petit doigt de mon petit Bobby contre toute sa personne. » Il y eut un silence, puis le docteur dit à sa femme qu'il valait mieux ne plus prononcer entre eux le nom du major. En cette occasion, Alice s'était montrée très fâchée contre Mrs. Dugdale, mais le soir même et le lendemain matin, elle se fit encore plus tendre qu'elle ne l'était habituellement envers sa belle-mère. Cette dernière avait eu tort de s'emporter contre le major, mais Alice n'en avait pas moins été touchée. Quelque temps après, un soir, le pasteur vint trouver Alice, alors qu'elle cueillait des fleurs dans un chemin aux environs de Beetham. Elle avait tous les enfants avec elle et était occupée à remplir le tablier de Minnie avec des fleurs cueillies sur la haie. Le vieux Mr. Rossiter s'arrêta pour lui parler, et après un moment, il parvint à convaincre Alice de marcher en sa compagnie. « N'avez-vous pas eu de nouvelles de John ? » demanda-t-il. « Oh non, » répondit Alice, presque en sursautant, et elle se dépêcha d'ajouter, « Personne chez nous n'a de raison d'avoir de ces nouvelles, il n'écrit à aucun d'entre nous. » « Je me disais que vous aviez peut-être reçu un message. » « Je ne pense pas. » « Il sera ici très bientôt, » dit le pasteur. « Oh, vraiment ! » Elle n'eut qu'un instant pour y réfléchir, mais elle continua. « Je suppose qu'il se rendra à Brook Park. »« Je le crains. »« Vous le craignez. Mais pourquoi devriez-vous le craindre, Mr. Rossiter ? S'il va là-bas, c'est que c'est l'endroit où il doit être. »« C'est ce dont je doute, ma chère. »« Ah, je ne sais rien de tout cela. » « Dans ce cas, je suppose qu'il ferait mieux de rester à Londres. »« Je ne pense pas que John se soucie beaucoup de Miss Wanless. »« Et pourquoi ? Elle est la plus ravissante jeune femme que j'ai jamais vue. »« Je ne crois pas qu'il s'en soucie beaucoup, parce que je crois que son cœur est pris ailleurs. »« Alice, c'est vous qui avez son cœur. »« Non. »« Je crois que si, Alice. » « Non, Mr. Rossiter, pas moi, ce n'est pas le cas. Je ne sais rien de Miss Wanless, mais je peux parler pour moi-même. Il me semble que c'est de lui que vous parlez en ce moment. »« Alors pourquoi va-t-il là-bas ? C'est justement ce que j'ignore. Pourquoi va-t-il là-bas ? Pourquoi prenons-nous si souvent la mauvaise décision alors que nous voyons qu'elle est la bonne ? Nous ne manquons jamais de faire ce dont nous avons envie, Mr. Rossiter. » « Si, cela arrive, lorsque nous y sommes contraints. Alice, j'espère que vous serez sa femme. » Elle s'efforça de soutenir que cela était impossible, qu'elle-même se sentait bien trop libre pour cela. mais les mots ne purent franchir ses lèvres, et elle ne put que sangloter, tandis qu'elle faisait un effort pour retenir ses larmes. « S'il vient à vous, donnez-lui une nouvelle chance, même s'il s'est montré déloyal envers vous pendant un moment. » Puis elle se retrouva seule au milieu des enfants. Elle dut sécher ses larmes et retenir ses sanglots, parce qu'elle savait que Mini était assez grande pour en comprendre la signification si elle les voyait. Mais elle se sentait incapable pour le moment de rentrer à la maison. Elle laissa les enfants dans le couloir et ressortit pour emprunter un petit sentier qui courait entre les buissons au fond du jardin. Je crois que son cœur est ailleurs. Se pouvait-il qu'il en fût ainsi? Et si c'était le cas, quelle valeur peut avoir l'amour d'un homme si cet amour le pousse d'un côté tandis que lui-même va de l'autre? Elle pouvait tout à fait comprendre que cela n'avait pas été une histoire de cœur, qu'étant un homme et non une femme, il avait pu faire de ce tournant de sa vie une question de calcul et avait pu se laisser porter ici ou là sans qu'il soit question d'amour. Tout comme il aurait pu rechercher une demeure convenable, il pouvait rechercher une épouse convenable. En se fondant sur cette réflexion, elle avait osé déclarer à son père et à sa mère que le major Rossiter n'était pas un coquin, mais un parfait gentleman. Mais tout cela n'était pas compatible avec ce que lui disait le père. « Alice, son cœur t'appartient », lui avait dit le vieil homme. Comment pouvait-il le savoir? Et pourtant, son affirmation était si douce, si sereine, si pleine à ses oreilles de musique céleste, que sur le moment, elle ne put en douter elle-même. S'il vient vers toi, donne-lui une nouvelle chance. Eh bien, pourquoi pas? Jamais elle ne parlait de Miss Wanless sans la louer. Elle se forçait à jurer que Miss Wanless était l'épouse qui lui convenait. Mais elle se connaissait trop bien elle-même pour ne pas savoir qu'elle valait bien mieux que Miss Wanless. Pour cette raison, elle pouvait, avec la conscience tranquille, donner au major une nouvelle chance. Ce cher vieux pasteur, il avait tout vu, il avait su, il avait compris. Si elle devait un jour devenir sa belle-fille, il aurait sa récompense. Elle ne se disait pas qu'elle espérerait le retour du jeune homme, mais s'il revenait, elle donnerait une nouvelle chance au pasteur. Voilà quelles étaient ses pensées à ce moment. Mais avant longtemps, elle dut en changer.